à toutes et à tous, bienvenue dans Graines de Réflexion, notre chronique dédiée à la transition écologique solidaire. Je m'appelle Victoria et je suis accompagnée de Dorian et Adélaïde. Bonjour.
Bonjour.
Nous sommes des jeunes en service civique chez Unicité Val d'Amboise sur les thèmes de l'écologie et de l'intergénérationnel. Pour continuer notre série sur la consommation responsable, nous allons aujourd'hui vous parler de la fast fashion. Commençons par définir ce qu'est la fast fashion. En français, cela peut être traduit par « mode rapide » ou « éphémère ». C'est un phénomène de renouvellement très rapide des collections de vêtements dans une même saison, voire chaque mois. C'est une mode éphémère et jetable qui est caractérisée par une surproduction rapide et incessante de vêtements. Par exemple, c'est lorsque vous revenez tous les mois dans un même magasin, type H&M, et que tous les mois, voire toutes les deux semaines, il y a une nouvelle collection. Maintenant, on va se pencher un peu sur l'histoire de la fast fashion. La fast fashion est née au début des années 90, avec l'arrivée des enseignes comme Zara dans les épicentres du monde comme New York ou Londres. Le créateur de Zara, Amancio Ortega Gaona, voulait rendre accessible à un plus grand nombre des pièces luxueuses en s'inspirant de grandes marques. En effet, à l'époque, le budget consacré aux vêtements était très élevé. Entre 1960 et 2020, la part de l'habillement dans le budget des Français a diminué d'un tiers. Nous allons voir pourquoi la fast fashion existe. C'est ce que va nous expliquer Adélaïde.
En effet, la fast fashion est un phénomène marketing qui rapporte énormément d'argent. Elle a été créée dans le but de produire toujours plus à moindre coût. En effet, si la fast fashion est si peu chère, c'est parce que le coût de la main-d'œuvre de ces marques est très bas, tout comme le prix des matières utilisées. En plus de cela, le rythme de production des vêtements est très rapide. La fast fashion pousse donc à la consommation. En effet, les prix étant bas, cela permet aux consommateurs d'avoir des vêtements accessibles, mais cela l'incite à acheter plus que nécessaire. Le prix est si bas que même si le consommateur n'a pas besoin du vêtement, il aura moins de chances de le ramener au magasin car de toute façon, il n'a pas coûté cher. De plus, le renouvellement rapide des collections est un argument de vente qui va faire revenir beaucoup plus souvent le consommateur, attiré par toutes ces nouveautés. Les marques utilisent différentes techniques de marketing pour inciter le client à acheter. Ainsi, les enseignes n'hésitent pas à mettre des sommes astronomiques dans la publicité, par exemple à la télé ou à la radio. Mais aujourd'hui, les marques misent de plus en plus sur les réseaux sociaux, grâce notamment au placement produit des influenceurs. Cette publicité est très efficace car elle est moins chère qu'une publicité classique, et aussi grâce à une relation plus intime entre l'influenceur et sa communauté. Les marques créent énormément d'occasions pour inciter encore plus souvent à la consommation, que ce soit notamment avec les soldes, les ventes privées, le Black Friday ou encore le Cyber Monday. Cependant, cette course toujours plus rentable a pour conséquence que nos vêtements sont de moins bonne qualité. La mauvaise qualité de nos vêtements devient même un argument commercial. Le tissu étant plus vite abîmé, il faut donc le renouveler plus souvent et donc acheter plus souvent. Cette mode est désormais implantée dans notre quotidien. D'ailleurs, on peut remarquer que chaque année dans le monde, il y a 100 milliards de vêtements qui sont vendus. Ce commerce très lucratif a aussi des conséquences peu glorieuses. Tout d'abord, l'industrie du textile a d'énormes conséquences environnementales. C'est la deuxième industrie la plus polluante au monde derrière le pétrole. C'est aussi la troisième industrie la plus consommatrice d'eau. Et en effet, il faut en moyenne entre 7000 et 10 000 litres d'eau pour fabriquer un seul jean. La culture du coton, souvent utilisée dans nos vêtements, favorise aussi l'utilisation massive de pesticides. Selon l'Organisation mondiale de la santé, 24% d'utilisation globale des pesticides sont consacrés à la culture du coton, alors que cette plante représente seulement 2,4% des surfaces cultivées. Pour répondre au rythme de la fast fashion, les producteurs de coton sont amenés à multiplier leurs utilisations d'OGM et de pesticides. Les sols abîmés par ces pesticides nécessitent donc encore plus d'engrais chimiques pour maintenir le niveau de production, ce qui les abîme encore plus. Bref, c'est une sorte de cercle vicieux. Une fois le coton récolté, il va être teint dans des usines. La teinture est une étape passée critique. Si les colorants avec métaux lourds et le formaldéhyde sont interdits en Europe, il n'y a pas souvent de contrôle sur les produits importés. Ces produits contaminent les vêtements en résidus toxiques, polluent l'air, les sols et les eaux à la sortie des usines. Les travailleurs et les riverains de ces usines connaissent une hausse inhabituelle de nombreuses maladies et de cancers. De plus, ces industries sont souvent localisées dans des pays émergents tels que le Bangladesh, la Chine ou le Brésil. Non seulement les travailleurs sont impactés, mais les riverains le sont également. Les cours d'eau de ces régions étant tellement pollués que les habitants ne peuvent parfois plus consommer l'eau et pêcher. La cofondatrice du mouvement Fashion Revolution a ainsi dit: on peut prédire la prochaine couleur à la mode en regardant celle des rivières en Chine.
D'accord, donc comme nous l'a montré Adélaïde, la fast fashion a de nombreuses conséquences écologiques. Dorian va aussi nous parler des conditions de travail des employés.
En effet, on ne pouvait pas vous parler de fast fashion sans mentionner les conditions de travail des employés. En plus d'être exposés aux matières dangereuses des teintures, les employés des usines n'ont que très peu de droits sociaux. Les employés sont très peu payés et par exemple, au Bangladesh, deuxième exportateur de vêtements après la Chine, les employés ne touchent que 83 euros par mois et seulement 23 euros par mois pour les travailleurs éthiopiens. En plus de ce salaire misérable, les employés sont souvent victimes de conditions de travail déplorables. Beaucoup d'usines dans ces pays sont malheureusement bien souvent des sweatshops. Les sweatshops ou ateliers de misère en français sont des industries dans lesquelles les employés sont exploités, travaillent trop longtemps ou de manière forcée, dans lesquelles sévissent des abus physiques ou moraux, ou encore où l'on fait travailler des enfants. L'Europe ne fait pas exception à ces pratiques, bien que plus rares qu'au Bangladesh, les sweatshops existent aussi en Europe. Par exemple, selon un rapport du Sunday Times, dans une usine textile fournissant la marque Boohoo située en Angleterre, les employés n'étaient payés qu'à la moitié du SMIC anglais et n'avaient que très peu de droits sociaux. Dans cette industrie du textile, à la recherche de toujours plus de profits, les patrons en viennent à faire des économies là où il ne faudrait pas. Par exemple, en 2013, l'effondrement du Rana Plaza, une usine au Bangladesh, a fait 1135 morts. Cette tragédie aurait pu être évitée si les propriétaires de l'usine n'avaient pas ignoré l'entretien coûteux mais nécessaire du bâtiment. À vouloir faire trop d'économies, cette passivité complice des donneurs d'ordre a coûté la vie de plus d'un millier de personnes qui allaient juste travailler. Beaucoup de grandes marques aussi n'hésitent pas à bénéficier de la main-d'œuvre forcée des Ouïghours, une minorité musulmane chinoise exploitée en Chine dans des camps de travaux forcés, victimes d'un génocide. Selon l'Institut australien de stratégie politique, nous pouvons citer des marques comme Nike, Apple, Ralph Lauren, Mercedes-Benz, etc. qui en bénéficient. Comme quoi, même quand on veut investir dans des marques censées être gages de qualité, on n'est jamais sûr de la provenance de ces articles.
Merci Dorian de nous avoir exposé ces aspects plus cachés de la fast fashion. Mais maintenant Adélaïde, tu vas nous parler des alternatives à cette mode rapide.
Et oui, à contre-courant de la fast fashion, le mouvement de la slow fashion a émergé dans les années 90 pour aller à l'encontre du consumérisme et pallier les dérives de la fast fashion. La slow fashion est un mouvement qui préconise une fabrication qui est respectueuse de l'environnement, des animaux, des personnes qui travaillent sur la chaîne de production. On favorise la qualité à la quantité. On peut consommer des marques dites « éthiques ». Un produit pour être éthique doit répondre à un ensemble de critères environnementaux et sociaux qui sont inhérents au développement durable et à la responsabilité sociale des entreprises. Pour découvrir des marques éthiques, vous pouvez vous rendre sur le site Slow We Are, qui répertorie des marques engagées dans la slow fashion comme Patagonia, Oli, Gaia Skin. On peut aussi favoriser le Made in France ou Europe, ou encore les vêtements recyclés. Bien que ces systèmes soient une avancée dans la mode éthique, ils sont néanmoins limités. Il reste des vêtements neufs et donc coûteux en matières premières et souvent un peu plus chers.
Oui, et il y a aussi une autre alternative, la seconde main.
Et oui, c'est une alternative qui est encore plus respectueuse dans l'environnement et du porte-monnaie. Il y a le principe des friperies où l'on peut acheter des vêtements déjà portés. Sur Amboise, par exemple, il y a l'Abside ou Emmaüs, il y a le vestiaire Saint-Vincent, etc. Mais on peut aussi se procurer des vêtements de seconde main sur Internet via des sites comme Vinted ou Le Bon Coin. Sur ces sites, des particuliers vendent ou achètent des articles, ce qui permet de se débarrasser des vêtements que l'on ne porte plus, et par la même occasion de se faire un petit peu d'argent. Enfin, la solution la plus économique et respectueuse de l'environnement, c'est tout simplement de moins consommer. Pour ce faire, il y a quelques techniques simples que l'on peut adopter. Déjà, se poser quelques questions. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ? Est-ce que ce vêtement me plaît vraiment ou est-ce que c'est juste un achat compulsif ? Et ensuite, on peut aussi faire durer plus longtemps nos vêtements pour ne pas devoir en racheter plus souvent. Et oui, car les vêtements de la fast fashion étant souvent de moins bonne qualité, on est amené à plus les renouveler, et donc à plus consommer. Pour pallier cette problématique, comme dit précédemment, on peut acheter des vêtements de meilleure qualité, plus résistants dans le temps, mais on peut aussi les raccommoder ou les réajuster. Pour ceux qui le peuvent, vous pouvez aussi les emmener chez un couturier, un tailleur ou un cordonnier. C'est un bon moyen de donner un coup de neuf à vos vêtements par un professionnel et de faire marcher l'économie locale. Aussi, pour vos vieux vêtements, vous pouvez les transformer. Par exemple, vos vieux jeans peuvent être changés en shorts ou vos t-shirts en chiffon.
En quelques mots, la slow fashion peut être résumée par acheter moins, bien choisir, faire durer. Ainsi se termine notre chronique sur la fast fashion. Merci à vous deux, merci à David Marion qui était à la technique et merci à Audrey Martin de nous avoir accompagnés. Vous pouvez retrouver cette chronique sur le site de Radioactive sur www.radioactivefm.fr. On se quitte avec la musique de Kaleid, État sauvage. Cette musique met en lumière un monde post-apocalyptique où l'on peut suivre le parcours initiatique d'un personnage en quête de changement et d'élévation. Nous avons choisi cette musique car c'est une ode à la nature qui prône le retour des choses essentielles. En effet, les chroniques sur la consommation responsable, de l'alimentation responsable, de la fast fashion viennent nous questionner sur notre consommation, notre rapport à la nature et à sa préservation.
Comme guérison, consommation sur consommation.